Et vous retrouvez tout de suite Anne Verdaguer, c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui de ce mandat d'arrêt lancé contre l'ex-président équatorien Rafael Correa, qui vit en Belgique et qui est accusé d'avoir commandité une tentative d'enlèvement d'un opposant politique. C'était en 2012. Au Nicaragua, de nouveaux affrontements dans le nord, dans la ville de la Trinidad, entre partisans de l'opposition et les paramilitaires. Il y a eu un mort dans les rangs des forces anti-émeutes. Et puis on entendra l'écrivaine haïtienne Yannick Lahance, qui a été nommée titulaire d'une nouvelle chaire de littérature au Collège de France, intitulée Monde francophone. Amélie Baron, notre correspondante, l'a rencontrée. Elle parle de la façon dont les stéréotypes ont la peau dure concernant la francophonie, justement, mais aussi l'histoire d'Haïti. Mais tout d'abord, c'est la revue de presse. Bonjour Domitille Piron.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous avez feuilleté pour nous la presse du continent américain qui commente largement donc cette information, un mandat d'arrêt émis par la justice équatorienne contre l'ex-président Rafael Correa.
Notice rouge pour Correa, titre à la une La Hora, avec en photo un face-à-face entre la juge Daniela Camacho et Rafael Correa. Notice rouge fait référence au message d'alerte d'Interpol pour l'arrestation et l'extradition de l'ancien président équatorien qui vit désormais en Belgique. La justice équatorienne a ordonné la détention provisoire contre l'ancien président pour son implication présumée dans l'enlèvement de l'opposant politique Fernando Balda en 2012.
Et parce qu'hier, Correa ne s'est donc pas plié à la décision de la juge.
El Universo rappelle qu'il devait se présenter tous les 15 jours devant la Cour nationale de justice d'Équateur durant l'enquête. Résident en Belgique, c'est au consulat d'Équateur qu'il s'est rendu, ce qui n'a pas convaincu la juge. Pour l'avocat de Rafael Correa, la détention provisoire ne répond pas à une décision de justice, mais à une vengeance. Le journal conclut son article avec les sympathisants de Correa qui parlent de persécution politique et organise ce jeudi une marche de soutien, alors que La Hora donne la parole à Fernando Balda en indiquant que cette décision de la juge est une conséquence des actes de l'ancien président. Je cite « D'abord, il a commis un délit avec mon enlèvement et ensuite, il ne s'est pas plié aux décisions de la justice. » Balda qui avance que Rafael Correa pourrait demander l'asile politique à la Belgique.
Direction de Nicaragua, à présent, je le disais, la répression continue malgré la présence de la CIDH.
Oui, la une de la Prensa est édifiante. Le Nicaragua continue à compter ses morts. La Prensa cite les chiffres de l'Association nicaraguayenne pour les droits de l'homme. 309 personnes tuées dans le pays depuis le 19 avril, dont 297 civils, parmi lesquels 70 ont reçu une balle dans la tête. Sur cette même une, violente attaque dans la foule, rapporte le journal dans une manifestation hier à Trinidad, au nord du Nicaragua, où, je cite, les paramilitaires et le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo ont semé la peur et l'angoisse en arrêtant et en attaquant le peuple qui défend ses droits. Une attaque qui a fait plusieurs blessés et un mort parmi les paramilitaires. El Nuevo Diario se penche sur les 158 personnes disparues. Plusieurs associations affirment qu'il existe des prisons clandestines. Les familles des disparus sont désormais accompagnés par Antonia Urejola, rapporteure de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, qui a un mandat de 6 mois pour enquêter sur les violences dans ce pays.
Revenons à présent, Domiti, sur le contexte post-élection au Mexique. Le nouveau président élu, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé qu'il recevrait le 13 juillet prochain le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. On le sait, les deux pays sont à couteau tiré sur de nombreux sujets. Au lendemain de sa victoire, AMLO s'est entretenu avec le président Donald Trump sur plusieurs de ces sujets sensibles, notamment l'immigration clandestine. Et le nouveau leader de la gauche mexicaine a déjà proposé un plan qui réduirait à la fois le nombre de migrants vers les États-Unis et générerait des emplois dans son pays. Et pour cela, il préconise d'occuper le terrain dans les régions mexicaines en difficulté, des régions où sévissent toujours les gangs et le narcotrafic. Angélica Pérez a interrogé Soraya Vasquez du comité stratégique d'aide humanitaire de Tijuana.
Les gens fuient leur pays, quittent leurs terres parce que la campagne est abandonnée, sans ressources. Il y a des violences, c'est le narcotrafic qui gouverne ces endroits-là et c'est le cas dans de nombreux états du pays. Il faut voir aussi comment nous pouvons favoriser l'économie de ces pays en tant qu'alliés et voisins et avec des systèmes d'échange. Il faut arrêter de nous considérer comme étant uniquement du Nord, on doit aussi se tourner vers le Sud.
Soraya Vasquez du comité stratégique d'aide humanitaire de Tijuana. Elle répondait aux questions d'Angélica Pérez. Dominiti Piron, on retrouve votre revue de presse. Oui, on va en Colombie où le dialogue entre le gouvernement et la guérilla de l'ELN a repris à La Havane depuis le début de la semaine. Et un massacre a eu lieu dans la province de Cauca, dans le sud du pays.
L'ELN serait responsable du massacre de 7 personnes à Argelia, dans la région de Cauca, titre El Tiempo. Les autorités ont retrouvé les corps avec des signes évidents de torture et des sources militaires ont confirmé au journal que 2 des victimes étaient d'anciens membres de la guérilla des FARC. El Tiempo précise qu'Argelia est située dans une région où les FARC et l'ELN se sont souvent affrontés pour le contrôle de la production de coca et du narcotrafic, d'où l'hypothèse d'un massacre perpétré par la guérilla de l'ELN. Ce n'est pas facile de déterminer qui sont les responsables, confie le maire de la ville au journal Semana, selon qui des témoins ont vu et entendu des choses, mais ici, les gens gardent tout pour eux et ne disent rien. Ils ont trop peur des représailles.
Ils chantaient la paix dans les années 70. On écoute Victor Jara et sa guitare. Le chanteur chilien, mort en 1973, est à la une de la presse aujourd'hui, Domiti.
Oui, l'auteur et chanteur victime du coup d'État au Chili avait été assassiné et 8 ex-militaires ont été condamnés hier. Après 45 ans, des dizaines d'expertises, de déclarations et d'actions en justice, ce mardi marque une étape dans le jugement de ce cas le plus emblématique pour les droits de l'homme au Chili, analyse La Tercera. Le journal Emol précise qu'ils sont 8 anciens militaires condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Victor Jara. Le jugement a mis en évidence que le chanteur et le gendarme Quiroga avaient été enlevés et séquestrés au stade de Santiago en septembre 73 avec de nombreux autres prisonniers. Mais comme il s'agissait de personnalités connues, elles avaient été mises à part puis torturées avant d'être tuées, respectivement de 44 et 23 balles tirées par les militaires, raconte El Mercurio. Le journal qui précise que l'État est également condamné à indemniser les familles des victimes à hauteur $1,370,000.
Merci Domiti Piron pour cette revue de presse des Amériques. Une écrivaine haïtienne à l'honneur à la prestigieuse institution du Collège de France, établissement d'enseignement et de recherche où sont dispensés des cours ouverts à tous. Yannick Lahens, lauréate du prix Femina en 2014, a été nommée titulaire de la nouvelle chaire de littérature intitulée Monde francophone qui ouvrira en 2019. Notre correspondante en Haïti, Amélie Baron, a recueilli sa réaction suite à cette nomination.
Yannick Lahens, bonjour.
Bonjour.
Quand on vous a annoncé cette nouvelle, est-ce que ça a été une surprise ? Un sentiment de nouvelle étape dans un parcours comme a pu être par exemple le prix Femina.
Oui, ça a été une très grande surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et en fait, oui, c'est un peu comme pour le prix Femina. Je me suis dit, c'est moi, d'accord, c'est une consécration pour le prix Femina, mais c'est aussi Haïti. Et là, je me suis dit, c'est aussi une occasion de faire connaître Haïti autrement, par sa littérature. Et c'est quand même une institution très prestigieuse, c'est un haut temple du savoir. Mais en même temps, je me dis que c'est une occasion aussi de faire connaître d'autres savoirs. Parce que la chaire s'intitule « Le monde francophone ». Et si on veut parler de monde francophone, il faut aussi commencer à parler de savoir partagé. Sans savoir partagé, il n'y aura pas de monde francophone.
Et monde francophone, justement, c'est aussi pour en finir avec le terme peut-être de francophonie qu'on a galvaudé, qu'on utilise sans trop savoir vraiment ce qu'il dit. Et puis il n'y a pas d'unité finalement, c'est une diversité des mondes francophones qui font une richesse finalement. La différence enrichit.
Tout à fait, et je pense que ça permettra peut-être à ceux qui ont lancé, disons, le concept et qui en ont fait ce que ce concept a donné dans la réalité jusque-là, peut-être de rectifier le tir. On ne peut pas partir toujours de quelque chose d'ethnocentré et vouloir que ça soit réparti de manière égalitaire. C'est impossible. Donc là, je crois que c'est une manière aussi de rectifier le tir et de se dire que les autres espaces où on parle français ont aussi à apporter quelque chose à cet ensemble de mondes qui ont le français en partage.
Alors, faire connaître l'histoire d'Haïti, vous avez choisi Haïti au 19e siècle, parce que c'est vrai que de l'histoire d'Haïti, on connaît 1804, l'épisode historique exceptionnel des esclaves qui obtiennent leur indépendance, et ensuite on bondit généralement à 1957, l'arrivée de Duvalier au pouvoir. Parfois, par chance, on entend parler de l'occupation américaine, mais le 19e siècle haïtien, c'est le flou total, il ne s'est apparemment donc rien passé, sauf qu'il s'est passé des choses, et en littérature notamment.
Alors, il n'y aura pas que le 19e siècle, mais je vais commencer justement par le 19e siècle, le premier cours, après la leçon inaugurale, et après on verra d'autres aspects et d'autres étapes aussi. Mais c'était important de le faire savoir, et vous faites bien de le mentionner, parce que on passe de 1804 avec la création de tout ce qu'on peut avoir comme stéréotypes et de clichés fabriqués à dessein, parce qu'il fallait pas que l'exemple haïtien se répande. Et on tombe à 1957, les tontons macoutes, pour renforcer justement les mêmes stéréotypes. Et entre-temps, il se passe énormément de choses en Haïti. Et aujourd'hui encore, il se passe des tas de choses qu'on ignore. Et pour moi, c'est un peu faire sortir tout ce savoir, toute cette histoire de l'ombre, à travers justement la littérature. Parce que avant tout, c'est une chaire de littérature. Mais on peut difficilement dissocier la littérature haïtienne de son histoire. Alors, le 19e siècle est extrêmement important parce que même pour nous, Haïtiens, il y a un certain nombre d'archives auxquelles nous n'avons pas eu accès. Et aujourd'hui, que dans beaucoup d'universités, beaucoup de jeunes chercheurs haïtiens aussi, mais beaucoup d'universités américaines, entre autres, ont travaillé sur des archives et on se rend compte que c'est une mine d'or. Tout ce qu'on peut trouver sur Haïti au 19e siècle et qu'on ignorait, simplement parce qu'on n'était pas allé chercher dans ce sens. Donc pour moi, c'est important de faire connaître ce 19e siècle, ce qui s'est passé, parce que c'est aussi une civilisation qui se construit un peu isolée du monde, en dehors du monde, comme on appelle Haïti le pays en dehors. C'est une civilisation qui se construit au 19e siècle. Donc c'est la base de tout. Pour comprendre ce qui va arriver, ce qui nous est arrivé depuis, il faut comprendre ce qui s'est passé là.
Et en matière de littérature, il y a eu des échanges, des collaborations entre les auteurs haïtiens de l'époque et les Français. L'histoire haïtienne est imbriquée avec l'histoire française, c'est l'histoire de ce monde francophone.
Oui, parce que beaucoup de gens ignorent d'abord que Haïti, un certain nombre de journalistes étaient en correspondance avec Victor Hugo ou avec Lamartine. Et que, par exemple, un journaliste de la fin du siècle opinait avec Victor Hugo sur l'exécution de John Brown aux États-Unis. Donc, ils émettaient des opinions sur l'esclavage en tant que fait historique. Et là, peu de gens le savent. On oublie aussi qu'au début du 19e, il y avait tout un échange entre, au moment de l'embargo sur Haïti, tout un échange entre les dirigeants haïtiens de l'époque et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne voulait même intercéder un peu pour que la France desserre un peu l'étau autour d'Haïti. Et qu'on a influencé même la pensée en Allemagne à ce moment-là. Donc c'est intéressant de faire sortir tout ça de l'ombre et de se rendre compte que la révolution haïtienne, c'est vraiment la troisième révolution des temps modernes. On a eu la révolution américaine, la révolution française, et la révolution haïtienne fait avancer précisément l'idéal des Lumières. Haïti est là un petit peu pour montrer, indiquer aux Lumières leurs propres contradictions.
Et l'avantage de cette chaire au Collège de France, c'est de faire aussi sortir de l'ombre des professeurs, des personnalités du monde intellectuel haïtien qu'on n'entend pas forcément, pas assez, même en Haïti. Comment vous avez choisi ces professeurs? Qui sont-ils déjà, peut-être?
Alors, il y a un certain nombre d'entre eux que je fréquente régulièrement parce que ce sont des aînés et j'aime beaucoup écouter ce qu'ils ont à transmettre. Des gens comme Michel Hector, Lainec Urbon, Jean Casimir, mais il y a aussi énormément de chercheurs français qui ont travaillé sur Haïti et qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir. Je pense à quelqu'un comme Yves Benoît. Je pense à ceux qui ont travaillé sur le théâtre haïtien du 19e, l'histoire du théâtre comme Cornevin. Je pense à beaucoup d'autres. Je pense à Florence Gauthier qui a travaillé aussi sur Haïti. Aujourd'hui, à Marcel Lorigny qui travaille aussi sur Haïti. Et je crois que c'est le moment de mettre en avant tout ce savoir accumulé et qui est resté dans l'ombre. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens à travailler sur Haïti.
Yannick Lahance, l'écrivaine haïtienne, était au micro d'Amélie Baron.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on retrouve Benoît Ferrand pour la première Caraïbe. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui en Guyane, les contrats des médecins urgentistes démissionnaires du centre hospitalier de Cayenne ont finalement été prolongés hier soir pour une période de 2 mois.
Oui, c'est le dénouement, peut-être provisoire d'ailleurs, d'une crise qui durait depuis déjà plusieurs semaines. Et au bout du suspense, la CME, Commission médicale d'établissement du centre hospitalier André Rosemont, a donc validé hier la prolongation du contrat des médecins démissionnaires. Sébastien Laporte.
Les urgences de Cayenne vont enfin retrouver un fonctionnement normal après une journée de paralysie presque totale suite à la démission collective de la majorité des médecins. Annoncée il y a 2 mois, celle-ci a pris effet hier matin, la direction n'ayant pas accepté, dans un premier temps, la proposition des démissionnaires qui consistait à signer un contrat de 2 mois pour chacun d'entre eux. Un moyen qui permettrait aux urgentistes et à la direction de l'hôpital de se donner un peu plus de temps. En fin de journée, le collectif des urgentistes a décidé de passer à la vitesse supérieure, comme l'explique le docteur Rémi Jourine.
On a dû mettre la pression ce soir pour essayer de les faire plier, de leur dire arrêtez de jouer avec la santé des Guyanais, là il faut des médecins aux urgences, il faut des médecins au SAMU, on est là. Et enfin, là ils sont en train de préparer les contrats, de finir des imprimés, mais c'est vraiment grâce au syndicat UTG qui est venu nous soutenir et grâce à la CME qui nous a soutenus unanimement dans notre démarche.
Les représentants du syndicat UTG ont effectivement annoncé qu'ils ne quitteraient pas la commission médicale d'établissement tant que les contrats des urgentistes ne seraient pas signés, rappelle la syndicaliste Rodrine Joseph.
Tant que ce n'était pas signé, on ne partait pas, tout simplement. Et on leur a demandé notamment aux représentants de l'ARS qui étaient là ce jour, est-ce qu'aujourd'hui, ils pouvaient nous dire si la prise en charge aux urgences de la population était assurée ? Il n'a pas su répondre à cette question. Donc clairement, pour nous, c'était non. Ne pas répondre voulait dire non.
11 contrats étaient en cours de signature hier soir. Les urgentistes démissionnaires espèrent que leur geste spectaculaire sera entendu.
Et rendez-vous donc dans 2 mois. Direction la Guadeloupe maintenant et l'aéroport Paul Caraïbe qui a accueilli hier soir le vol inaugural Orly-Pointe-à-Pitre de la compagnie low-cost espagnole Level qui desservira désormais la Guadeloupe 4 fois par semaine. Franck Aristide.
C'est un avion quasiment plein qui a atterri à Paul Caraïbe hier. Avec ses tarifs de départ à 99 €, Level n'a pas eu de mal à trouver de passagers. C'est la première compagnie à bas coût à tenter l'expérience transatlantique vers chez nous. Ce modèle a longtemps laissé dubitatif, mais il semble prendre de plus en plus d'ampleur. L'implantation de cette low-cost devrait en tout cas avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par les autres. Concurrence oblige, elle devrait les revoir à la baisse. Avec l'arrivée de Level, elles sont désormais 5 sur cette ligne qui compte déjà Air France, Air Caraïbes, Corsair et XL Airways. Mais au-delà des prix, l'enjeu sera aussi probablement pour certaines de se maintenir dans un marché devenu ultra concurrentiel. L'histoire s'en souvient encore, l'arrivée d'Air Lib et une mauvaise gestion à la fin des années 90 avait entraîné début 2000 sa propre faillite et celle d'AOM.
Bon après-midi Anne, à demain.
À demain et merci Benoît Ferrand pour ce journal La Première Caraïbe. Et on termine en musique avec le Vinicius Cantuaria Quintet au Duc des Lombards ce soir à Paris et on écoute le titre Allegria.
Aperta um bocadinho e eu me lembro daquele zonho. Eu sei que eu gosto dela e fico esperando ela me olhar. Esperando ela me olhar. Esperando ela me olhar. Eu tava quieto no meu cantinho. Ela chegou, cê quer saber meu nome? Meu nome é Alegria. E agora eu só quero é dançar. Esperando ela girar. E eu esperando ela girar.